Je vous invite à vous tourner avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Alors je vais vous demander de faire un effort d'attention, un effort d'intérêt, parce que on aborde un passage qu'on a l'habitude de développer ou auquel on fait référence pour la fête de Noël. On parle de la naissance de Jésus-Christ. Et oui, c'est un peu comme on fête Noël en plein mois de février. Noël à la Chandeleur ou Noël pendant le carnaval. Mais encore une fois, ce message de Noël, on sait d'abord qu'il y a de grandes chances ou de grandes probabilités pour que le moment où on célèbre Noël ne corresponde pas vraiment à l'anniversaire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est... Peu importe la date de cet événement historique, ce qui compte, c'est qu'il ait eu lieu. Et encore une fois, je vous rappelle que l'évangile de Luc, il a été écrit pour qu'on ait l'assurance de la véracité des choses qui nous sont rapportées dans cet évangile. Je vous rappelle la préface du docteur Luc, on pense que c'était un médecin, d'origine grecque, un gentil probablement, mais il dit au tout début de l'évangile, « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui dès le commencement en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrire d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Aujourd'hui, lorsque vous cherchez un médecin, vous aimez trouver un médecin qui ait le sens du détail. Un médecin qui dise « Bon, on va essayer ça, on va bien voir ce que ça donne, prenez deux aspirines et revenez me voir la semaine prochaine. » S'il avait eu la technologie à sa disposition, le docteur Luc, il aurait dit « J'ai passé au scanner, à l'IRM ou MRI, tous ces événements, il a fait des entretiens, il a recherché les choses et ce qui est merveilleux, on l'a rappelé et on va le voir encore aujourd'hui, c'est que dans tout ce qui est détails historiques, détails politiques, on a eu des vérifications de ce qu'il disait absolument vrai. Il n'a pas raconté des légendes au niveau politique. Lorsqu'il cite un nom d'un dirigeant politique de l'époque, lorsqu'il donne des dates, lorsqu'il donne des concurrences de temps, des choses qui se passent au même moment, on s'aperçoit en fait que l'histoire, des fois bien longtemps après, a vérifié ce qu'il disait. Et on est surpris des fois de réaliser que certains événements historiques n'ont été vérifiés qu'il y a peu de temps. On sait que la Bible nous apprend que Jésus-Christ a été crucifié sous la gouvernance, pendant que le gouverneur c'était un dénommé Ponce Pilate, préfet de Judée. Mais il a fallu attendre 1961 avant que l'on retrouve une plaque gravée, un morceau de plaque, indiquant qu'un bâtiment avait été inauguré par Ponce Pilate, préfet de Judée. jusqu'à présent, Ponce Pilate, les critiques pouvaient dire c'est un personnage imaginaire qu'une petite bande de juifs qui a voulu monter une affaire juteuse et fructueuse a imaginé. Non, en 61, on a eu la preuve qu'il y avait bien eu un Ponce Pilate. Puis alors, je vais peut-être vous surprendre, parce que le roi David, on imagine que son existence historique est prouvée depuis longtemps. En fait, en dehors du récit biblique, qui encore peut être pris comme de l'histoire véritable, mais on aime bien chercher, souvent les critiques aiment dire qu'il n'y a pas de source extra-biblique. C'est-à-dire que si on enlève la Bible, vos histoires, elles sont nulle part ailleurs rapportées. Et c'est seulement en 1993, la plupart d'entre vous, peut-être pas tout le monde, on a des jeunes parmi nous, qu'une équipe d'archéologues a découvert au nord d'Israël, sur une colline appelée le Tel Dan. Les Tels, c'est des accumulations de villes qui se sont superposées les unes aux autres et qui constituent des collines recouvertes par de la verdure, mais quand on fait des fouilles, on peut retrouver l'histoire empilée. Et là, on a trouvé un morceau de basalte, un morceau de pierre, qui faisait référence à la maison de David et au roi d'Israël. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de source extra-biblique. Et c'est seulement en 93 que ça a été fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que tôt ou tard, les critiques sont mises à mal. On trouve, la Bible a toujours fini par avoir raison. Historiquement, et on sait, parce que l'Esprit Saint nous parle, nous montre que nous sommes des enfants de Dieu, l'Esprit Saint témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu, nous savons que la vérité spirituelle de la Bible, elle va être aussi révélée à tous. Un jour, tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Dieu a signé la Bible pour l'authentifier avec quelque chose qui est difficilement réfutable. Dieu, j'allais dire quelque chose un peu sacré, comme un sacrilège, Dieu n'est pas bête. Il nous a créés, Dieu est intelligent, suprêmement intelligent. Il savait que les hommes allaient s'éloigner de lui, allaient critiquer ce qu'il disait. Donc il a trouvé, c'est intéressant aujourd'hui avec la technologie, on essaye de vérifier que vous êtes bien la personne que vous dites être. On vous demande votre mot de passe. Et sur chaque application, vous définissez un mot de passe. Et souvent, on définit toujours le même. Parce que sinon, on s'en rappelle plus. Alors maintenant, il y a des applications qui vous aident à vous rappeler de vos mots de passe. Et puis, il trouve que c'est pas assez exigeant. Donc, il vérifie encore. Pour vérifier davantage, non seulement il faut des lettres, mais il va falloir des chiffres. Et puis des caractères. Et si bien que quand vous voulez utiliser votre vieux mot de passe qui marchait il y a 10 ans, il faut rajouter des chiffres et des caractères. Cet besoin d'authentification, c'est un besoin universel. Et Dieu le connaissait bien. Donc il a trouvé le meilleur moyen qui soit. Et ce moyen, ce sont les prophéties bibliques. Et on a déjà évoqué le fait que si vous avez fait des maths ou même un petit peu d'arithmétique et de maths à l'école, vous avez entendu parler de statistiques, de probabilité pour qu'une chose se passe. S'il y a une boule rouge et une boule noire dans un sac et que vous en tiriez une au hasard, il y a 50% de chances que vous tiriez la boule noire. Dieu a multiplié les difficultés en donnant des prophéties très précises. Alors les critiques souvent disent « Oh mais c'est facile, on fait les prophéties après coup » et on dit par exemple « Moi j'aurais pu dire que j'écris un livre et je dis que ça a été publié en 2010 et je dis que le 23 février 2014, il fera soleil à Nice. » Et vous me direz « C'est facile, tu l'as écrit après avoir constaté qu'il y avait un beau soleil qui brillait et... » Non, Dieu fait les choses vraiment à l'avance. On peut le vérifier. Et là, il avait dit par l'intermédiaire du prophète Michée, on peut s'y tourner, c'est quelques livres avant les évangiles, dans la Bible à la colombe, c'est page 918, la première partie, l'Ancien Testament. Si on vous a passé une Bible, le prophète parlait d'une petite ville inconnue. Il disait, verset 1 du chapitre 5, « Toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Et cette prophétie, c'est la prophétie qui annonce la venue du Messie qui va, de cette ville va sortir le Messie, mais c'est pas le début de son existence. Son existence, elle remonte au jour d'éternité. C'est... Quand on pense en termes de passé, on essaye de penser à quelque chose de très lointain, on est encore loin du compte pour atteindre les jours d'éternité. Les jours d'éternité, c'est les jours avant que le temps ne fût. C'est les jours avant que on puisse imaginer le passé. Et donc, cette prophétie parle de cette petite ville. Il y avait plusieurs Bethléem, ça veut dire la ville du pain. C'était une ville insignifiante. Il y avait une autre ville de Bethléem de Zébulon. Zébulon, c'était au nord d'Israël. Il en est question dans Josué 19, 13. Mais là, encore une fois, Dieu parle de prophétie et c'est près de 750 ans avant que n'arrive l'épisode que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. On va le lire ensemble. On va commencer. Chapitre 2 de Luc, verset 1. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la traîlerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Alléluia. « Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. Ça, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dieu, encore une fois, pour parler en se risquant au sacrilège, Dieu a un sacré problème. Pourquoi ? Parce que il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Le Messie, on a vu qu'il avait été promis à Marie lorsque l'ange lui a été apparu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Cette prophétie de Michée et cette annonce à Marie, il faut les réconcilier. Pour que le Messie arrive, selon la prophétie de Michée à Bethléem Ephrata, il y a 130 kilomètres à parcourir. 130 kilomètres à parcourir et à l'époque, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas de low cost, il n'y avait même pas de voiture. Il y avait des chevaux, il y avait des ânes, il y avait aussi des pieds. Donc, il va falloir que Dieu fasse bouger Marie de Nazareth à Bethléem. Si vous avez remarqué, il est dit qu'ils montaient à Bethléem. Joseph monte de la Galilée. Si vous regardez sur la carte, vous dites, mais en fait, il descend. Parce que la Galilée est au nord. Il faut donc qu'il amène, fasse parcourir ses 80 000 ou 130 kilomètres à Joseph et Marie. Et à l'époque, il y a un certain César Auguste. C'est en fait le premier vrai empereur romain. Sa grand-mère, c'était la sœur de Jules César. Jules César, c'est pour ceux qui connaissent bien leur histoire avec Astérix et Obélix, c'est celui qui a défait les Gaulois, Vercingétorix, un copain d'Astérix, en 52 avant Jésus-Christ à la bataille d'Alésia. Et son petit-neveu, c'était un certain Gaius Octavius. Et César l'avait adopté, Jules César l'avait adopté comme son fils. Il avait remarqué que c'était quelqu'un de brillant, de très capable. Et c'est lui qui lui a succédé suite à des épisodes historiques très intéressants où il y avait l'histoire d'Antonie et Cléopâtre. Il y avait un triumvirat, un gouvernement à trois pendant un temps. Mais il finit par prendre le pouvoir et se fait appeler César, comme son grand-oncle. Et puis, pour se faire valoir, il prend le nom Auguste, Auguste, ça voulait dire celui qui est saint, celui qui est très haut, celui qui, on dit des fois, une auguste présence, une prestance auguste. C'est un peu vieilli, bien sûr, mais ça voulait dire qu'en fait, il était quelqu'un de très, très important. Il était totalement imbu de sa personne. Et d'un certain côté, il avait ses raisons. Il était à la tête de l'empire le plus puissant de la terre à l'époque. Et lorsqu'il parlait, les gens lui obéissaient. Et on voit un contraste justement entre la gloire, l'orgueil d'un côté avec ce César Auguste, et puis l'humilité de la naissance du Messie, du Sauveur de l'humanité. César Auguste se faisait appeler Sauveur aussi. Un peu comme un homme politique qui arrive avec des solutions, un homme ou une femme politique qui arrive avec des solutions. En ce moment, en Ukraine, il y a des événements historiques, des bouleversements historiques qui sont en train de se passer. Et Yulia Tymoshenko, elle apparaît un peu comme la sauveuse de l'Ukraine. On ne sait pas ce que l'avenir réserve à ces personnages, à ce pays. Mais lui, César Auguste, il était celui qui réglait les problèmes. Il faut dire qu'il l'Empire romain, depuis Jules César, avait traversé des périodes, des bouleversements très, très violents. Mais depuis quelques années, il y avait la paix, il y avait ce qu'on appelait la Pax Romana, la paix romaine qui était imposée aux autres par la force. Un peu comme en Union soviétique, il y avait toutes ces ethnies qui étaient sous la botte du gouvernement soviétique. Il y avait la paix sovieticus, Pax Sovieticus, ça c'était la Pax Romana, mais c'était aussi un moment privilégié pour l'Évangile, pour qu'il arrive. Parce que justement, cette paix permettait aux gens de voyager. Il y avait un système de voies, de routes, les voies romaines. Il y avait aussi des langues, le romain et aussi le grec qui s'étaient répandues. Il y avait un peu comme l'anglais aujourd'hui. On pouvait communiquer en voyageant, en utilisant une ou deux langues. Et ce César, pour des raisons purement, bassement matérielles, économiques, il voulait augmenter les revenus de l'État en prélevant davantage de taxes. Et être sûr que personne n'échappe à la taxation, il fait ce que les gouvernements font aujourd'hui. On nous dit aussi que c'est à des fins de gestion, et je pense que c'est vrai aussi, de savoir que telle région, la population d'une région augmente, donc il faut davantage d'écoles, il faut prévoir à l'avance. On fait ce qu'on appelle un recensement. On compte les gens. Et là, il décide de demander aux personnes de retourner dans la ville de leur famille, la ville de leurs ancêtres. Peut-être que c'est aussi une façon de désamorcer la colère qui aurait été possible, en disant au moins je vous donne l'occasion de retrouver vos familles. Un peu comme ici, dans notre société, où souvent on se retrouve en famille à Noël. Aux États-Unis, c'est à la fête de Thanksgiving que les familles se retrouvent. Là, il décide d'ordonner ce census, ce recensement. Et sans doute, il doit se dire, qu'est-ce que je suis puissant? Je décrète quelque chose et partout dans le monde de l'époque, tous les gens se mettent en branle. Je suis le roi du monde. Je suis le sauveur de l'humanité. On va récolter davantage de taxes et on va pouvoir faire des belles choses. Et mon nom sera glorifié. Je suis l'empereur. Je suis le sauveur du monde. Et donc, en fait, on sait que il n'était qu'en fait qu'une marionnette entre les mains de Dieu. Parce que Dieu accomplit ses desseins, quels que soient les hommes en charge de la politique, quels que soient les hommes puissants d'un moment donné, Dieu, Il est dit dans Proverbe 21, premier verset, que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Alors peut-être que ça vous parle pas trop, mais quand vous faites la vaisselle, pour être très prosaïque, il y a des fois du marc de café qui s'est mis dans un coin et le robinet, l'eau coule juste au-dessus. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre main et vous faites couler l'eau un peu ailleurs. Dieu, c'est aussi facile pour lui de changer la politique du monde que pour vous de faire nettoyer l'évier en faisant bouger l'eau avec votre main. En ce moment, encore une fois, il y a 3 jours, on se dit, ça y est, Poutine, après les Jeux Olympiques, va venir avec ses chars pour imposer l'ordre en Ukraine. Il est toujours capable de le faire, j'en suis sûr. Mais 3 jours, il y a des morts. 2 jours plus tard, le président est en fuite. Le Parlement l'a destitué. Le Parlement a libéré l'opposante historique, Yulia Tymoshenko, à ce président. Pour Dieu, il fait la vaisselle. Il bouge les choses comme il veut. Et ça, c'est très important de le savoir. Parce que si vous lui appartenez, vous n'avez rien à craindre. On sait qu'on a des frères et sœurs qui vivent sous la persécution. On prie pour eux, on écrit, on fait tout ce qu'on peut pour eux. Et Dieu, du jour au lendemain, il peut libérer ou il peut les laisser dans cette situation. Ça nous paraît inconcevable, on se dit, mais c'est pas possible. Mais encore une fois, Dieu n'a pas la même perspective que la nôtre. Nous, on voit, en termes d'années, de décennies, d'une vie humaine, qui, si elle est longue, ne dépasse rarement 120 ans. Dieu, il voit les choses, encore une fois, il est là de toute éternité. Il sera là de toute éternité. Dieu est en dehors du temps et son économie, sa logique nous surprend. Ses voix sont au-dessus de nos voix, ses pensées sont au-dessus de nos pensées, mais on regarde à la croix et on sait qu'il nous aime. Et on peut lui faire confiance, même dans les épreuves les plus terribles. La perte d'un être cher, un revers de fortune, une maladie qu'on vous annonce, une maladie mortelle. Dieu nous aime et il ne cesse de nous aimer quelles que soient les circonstances. Et donc, elle arrive, cette jeune famille. Alors on a toujours l'image qu'elle monte sur l'âne et qu'elle est prête déjà à accoucher. Rien ne le précise. Il y avait peut-être quelques semaines encore, c'était peut-être pas aussi dangereux de voyager, mais c'est sûr que ça devait être très fatigant. Il y a des personnes, je pense qu'il doit y avoir même des agences de voyage qui peuvent vous permettre de faire le voyage entre Nazareth et Bethléem, où il y a des gens qui ont fait cette aventure et qui en ont écrit des livres, fait des films, pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est vrai que ça devait être très difficile. Et puis, quand ils arrivent, on connaît l'histoire, il n'y a pas de place à l'auberge. On a un petit livre qu'on a traduit de l'anglais par notre pasteur qui est venu en juin pour célébrer le 20e anniversaire de l'église, Wayne Taylor, qui s'appelle « Bonne nouvelle d'une grande joie », qui est une méditation pour le mois de décembre. Normalement, ce sera en ligne sur Phare FM en décembre prochain. Il a un chapitre très intéressant qui parle de l'auberge de Kim Ham. Il est question dans les livres de Samuel, du roi d'Israël David, justement, et que David avait dû s'enfuir pour se cacher en Galaad, à 100 kilomètres de Jérusalem, à l'est du Jourdain, et qu'il avait été reçu par un dénommé, un riche propriétaire qui s'appelait Barzillai le Galaadite. Quand David est remonté sur le trône, il a invité ce dénommé Barzillai, qui avait 80 ans, oui, à l'époque, à revenir auprès de sa cour. Et en fait, dans 2 Samuel 19:31, il est dit qu'il lui suggère plutôt d'inviter son fils Kimham à sa place. Et plus loin, il est dit que dans le livre de Jérémie 41:17, Jérémie a beaucoup souffert, il a été forcé d'aller en Égypte. Et il a eu une courte période quand il s'est arrêté dans un gîte près de Bethléem qui s'appelait l'auberge de Kimham. C'était le fils de Barzillai qui avait de toute évidence ouvert une auberge. Et ce mot de Kimham, ça veut dire désir ardent et douloureux. Et beaucoup pensent que s'il y a ces détails dans la parole de Dieu, c'est peut-être pour signifier que cette auberge où il n'y avait plus de place, c'était peut-être même cette auberge de Kimham. Peu importe, ce qui est triste, c'est que l'aubergiste, qui n'avait peut-être plus l'hospitalité de Barzillai et de Kimham, leur a dit non, vous voyez, c'est complet, il y avait encore le signe rouge en néon qui marquait complet à l'auberge. Et en fait, il leur a refusé l'hospitalité. Il leur a dit, il n'y a plus de place, alors qu'en fait, il restait de la place. Il restait la chambre de l'aubergiste. Est-ce que vous pensez que si vous avez été à la place de l'aubergiste, connaissant l'histoire, vous n'auriez pas proposé votre chambre ? La question, c'est pas, on y reviendra, mais c'est est-ce qu'il y a de la place dans votre cœur pour ce Messie qui arrive et qui veut naître en vous ? Il est emmailloté et couché dans une crèche. Là aussi, il faut revisiter nos schémas, nos images prédéfinies. La crèche, c'est tellement beau, ce petit santon de Provence. Chaque année, on m'en offre un nouveau. Et on a une belle crèche bien faite avec de l'éclairage, de la lumière, de la chaleur presque. Non, la crèche, c'était rayer de votre esprit la jolie petite crèche bien faite. La crèche, c'était une auge pour les animaux, pour le bétail. C'était à l'époque, c'était des auges creusées. C'était un récipient comme un bassin qu'on creusait dans un morceau de pierre. Et c'est là qu'on mettait le grain pour que les animaux se nourrissent. Donc la jolie petite crèche, en fait, c'était un morceau de pierre creusé dans lequel il y avait de la bave séchée, des graines qui moisissaient. C'était pas glorieux du tout. D'un côté, il y a le Sauveur du monde qui se croit tout puissant parce qu'il a ordonné un décret et tout le monde obéit ses ordres. Et de l'autre côté, il y a le vrai Sauveur. Et lui, il s'humilie au point de prendre les limitations, pas seulement d'un homme, mais d'un bébé. D'un bébé. Un bébé qui doit être changé. Un bébé qui, pour naître, va devoir passer par le canal de naissance de sa maman. On imagine, à la fin, il est dit que Marie réfléchissait à toutes ces choses, elle pensait à tout cela. Savoir que vous portez en vous, je ne sais pas ce que c'est déjà que d'avoir le sentiment de porter un enfant. Je me souviens, j'avais fait une expérience quand Nancy était enceinte avec notre premier fils. J'avais lu ça quelque part, j'avais dit c'est une bonne expérience. Et j'avais mis un sac à dos sur mon... par devant. Et j'avais mis un chat dans le sac à dos. Ça, c'est pour donner un peu un sentiment de qu'est-ce que c'est que d'avoir quelque chose qui vous déséquilibre et qui bouge à l'intérieur de votre ventre. Mais non seulement il y avait ce bébé qui bougeait dans le ventre de Marie, mais elle savait, elle avait la foi que c'était en fait le sauveur de l'humanité. C'est inouï, c'est incommensurable. Et il vient naître, il s'humilie au point d'être prêt à subir. Et on peut se demander, mais pourquoi il est venu comme ça? Nous, si on organisait un événement, on ferait un peu de pub, on le ferait descendre au Negresco, dans la chambre, dans la suite présidentielle ou royale. On aurait les voitures les plus belles pour le transporter. Souvent, lorsqu'on cherche à s'élever, c'est qu'on est bas. Et on veut être glorifié parce qu'on sait qu'on n'est pas glorieux. Mais quand on a la puissance, on peut être très simple. Et Dieu, sa simplicité, elle est à l'image de sa puissance infinie. Dieu est simple. Les hommes ont essayé de faire des choses religieuses. On construit des belles cathédrales. Et puis on est loin de la présence réelle du Sauveur de l'humanité. Dieu, il s'est fait bébé parce que personne n'est intimidé par un bébé. Je suis un peu gêné d'avoir demandé au bébé Gabriel de partir. Mais si ça avait été le maire de la ville, qui est une quinte de tout, je n'aurais pas... Écoutez, vous pourriez pas sortir? Ça dérange. Le bébé, on ose lui parler, on lui fait des guili-guili, on lui fait des risettes, areux-areux. Dieu s'est humilié pour qu'il soit accessible. Imaginez le voyage de Dieu pour arriver. Il y avait une publicité qui me frappait il y a quelques années je crois que c'était souvent les bonnes publicités, c'est inconscience. On oublie de quoi elles parlaient, mais elles nous ont frappés. On voyait la Terre de très loin comme d'un satellite, comme une petite vue de la Lune, une petite boule bleue dans le noir de l'infini astronomique. Et puis l'image zoomait sur la Terre. Et finalement, elle zoomait sur une région, zoomait sur une ville, zoomait sur une maison, sur une personne. Elle zoomait sur la peau de la personne, elle zoomait sur les cellules. Il y avait ce voyage qui donnait un peu le vertige. Et Dieu aussi a fait un voyage vertigineux pour s'abaisser jusqu'à nous, pour nous parler, pour nous montrer qu'il nous aime, pour ne pas nous intimider. Et puis il y a l'épisode un peu... juste une remarque, il est emmailloté. On va voir que l'ange va leur parler au verset 12, il leur dit, quand il parle aux bergers qui gardent leur troupeau, il dit, voilà, vous aurez un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Le mot pour emmailloter, c'est le mot qui veut dire déchirer. C'était des lambeaux de tissu, et l'idée, c'était pour que l'enfant se sente en sécurité, après être sorti du ventre de sa maman où il était confiné pendant 9 mois, on le serrait étroitement avec ses bandelettes, et ça le rassurait, ça le calmait. Mais c'est aussi le même mot qui est utilisé lorsqu'il est question des bandelettes qui ont été trouvées lorsque le corps de Jésus a quitté la tombe. Et donc c'est presque une prophétie ou une continuité pour nous rappeler que Ça, c'est le plus grand événement de l'histoire parce que c'est l'événement qui conditionne, qui préfigure Pâques, qui préfigure le sacrifice et l'acceptation du sacrifice par la résurrection. Ça, c'est peut-être l'événement le plus important de l'histoire de l'univers. Le fait que Dieu vienne naître parmi nous. Il est dit que il y avait ces bergers, on pense que c'était sans doute des bergers qui s'occupaient des troupeaux d'animaux qui étaient sacrifiés au temple, parce qu'ils étaient vraiment, Bethléem, là où ils étaient, c'était pas loin du temple où on sacrifiait les animaux. On sait qu'il y avait un racket, on pouvait pas amener son propre animal, il fallait l'acheter auprès des fournisseurs officiels qui avaient la possibilité de charger, de demander beaucoup plus d'argent. Et il fallait payer aussi avec la monnaie du temple. Donc il y avait un trafic d'échange d'argent. Les changeurs du temple, après lesquels Jésus s'est violemment opposé. Parce que, encore une fois, il mettait des obstacles entre vous et Dieu, entre moi et Dieu. Et il y a ce témoignage, donc, un ange du Seigneur leur apparut. On pense, parce qu'ils étaient dehors, on n'est pas sûr, mais que c'était plutôt au printemps, qu'en plein mois de décembre, mais peu importe encore une fois. Ils sont dehors et il y a un ange qui apparaît. Le miracle intersecte le naturel. Et on vit dans un monde où le miracle n'a pas bonne presse. L'homme, dans son orgueil, veut tout comprendre. L'homme, dans son orgueil, veut tout expliquer. L'homme, dans son orgueil, dit que c'est l'homme qui a fait Dieu et pas Dieu qui a fait l'homme. Et à la base, on dit « si je ne peux pas voir, je ne crois pas. Je ne veux pas croire si je ne peux pas voir. » Dieu nous dit « croyez et vous verrez. » Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que nous vivons à une époque où les choses invisibles sont de plus en plus manifestes. Vous utilisez sans même y penser votre portable, votre smartphone, votre téléphone, pour être relié à des milliards de données disponibles par l'intermédiaire de Wi-Fi. Vous le voyez, vous, le Wi-Fi ? Il est où, le Wi-Fi, dans cette pièce ? Vous allez me dire, c'est là-bas. Non, non. Là-bas, il y a le récepteur qui est connecté au réseau Internet et qui envoie des ondes. Mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas et pourtant, on compte dessus. Et là, il y a cette intersection, cette intervention du divin, du miraculeux, dans l'existence de ces bergers. Ces bergers, là aussi, on pense qu'un berger, c'est une jolie profession. Aujourd'hui, on voit des gens qui quittent tout et puis qui deviennent bergers en Provence. Alors, on fait un reportage sur France 1, TF1 ou France 2. Et ça inspire les gens. Ah, ça fait rêver, tiens, c'est vrai. Quel beau métier que d'être berger, de faire son propre fromage. À l'époque, c'était un métier qui était méprisé. Il fallait pas faire de longues études pour être berger. David était un berger, c'était le dernier de la famille, c'est lui à qui on confiait de garder les bêtes. Et ils avaient même la réputation d'être des voleurs. Le témoignage d'un berger ne comptait pas parce que c'était des hommes de mauvaise réputation. Et encore une fois, Dieu choisit de se révéler d'abord à ces hommes méprisés par la société. Dieu renverse les choses intuitives. Il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives. C'est toujours fascinant de réaliser que ce qu'on prend comme des vérités, en fait, ce ne sont pas des vérités. Il y a des ouvrages toujours fascinants, c'est pas notre propos, mais des vérités comme on apprend mieux dans une toute petite classe. Où il vaut mieux aller dans l'école la plus réputée pour réussir dans la vie. On va pas s'y étendre, on peut en parler après, mais en fait il y a des études très sérieuses qui montrent que c'est complètement faux. Qu'il vaut mieux être meilleur dans une école médiocre que dernier dans une école super. Que la plupart des gens qui font des études scientifiques dans les meilleures écoles, il n'y en a que très peu qui finissent par faire un métier scientifique. Alors que ceux qui se destinent à des études scientifiques dans des écoles de moindre niveau, ils sont encouragés, ils sont dans la course, ils participent, ils ont des bons résultats. Et là, encore une fois, c'est contre notre intuition de dire que Dieu va se révéler à des gens humbles. S'il se révèle au président, au roi de la terre, ça sera facile, ça va descendre du haut vers le bas. César va dire « croyez », c'est ce qui va se passer plus tard, pour le plus grand mal de l'avenir de la foi chrétienne en Europe, lorsque ça va devenir une religion d'État. Les anges, c'est pas dit, mais on pense que c'est peut-être Gabriel qui est en train de bosser beaucoup depuis le début de l'évangile, avec l'annonce à Marie, à Zacharie et peut-être au berger. Il leur dit « soyez sans crainte ». Ça, c'est une réaction que l'on trouve dans toute la Bible devant le vrai miracle, devant le vrai sacré, devant l'intervention divine. L'homme a peur. Et c'est normal. L'homme réalise sa faiblesse, son infinie faiblesse devant un Dieu tout-puissant. Et l'homme prend conscience aussi que son péché le met en position de grave danger. Quand je réalise qui Dieu est, quand je vois qu'il intervient et que je réalise que je suis un pécheur, je prends peur. Mais il me dit « ne crains rien, ne craignez pas ». Et il nous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Encore une fois, c'est le titre de ce petit ouvrage, il y en a quelques-uns. Si vous voulez en prendre un, en acheter un. Bonne nouvelle d'une grande joie. On a peu de bonnes nouvelles aujourd'hui, quand on regarde les nouvelles. Mais l'Évangile, la Bible, ce livre que nous étudions ensemble, c'est vraiment formidable. Et ce qui est bien, c'est que Ces bergers qui étaient en bas de l'échelle sociale, ils n'ont pas une réputation à sauvegarder. Peut-être vous êtes converti depuis peu et vous êtes gêné de dire à vos voisins au travail que vous êtes croyant. C'est encore l'orgueil de l'homme. Vous pensez trop, vous craignez les hommes et pas Dieu. Dieu veut que nous vivions notre foi au grand jour. On n'est pas appelés à être des agents secrets de l'Évangile. Il y a des pays où la persécution fait qu'on doit prendre de grandes précautions pour ne pas se faire taire définitivement. Mais bien trop souvent, on a l'occasion, on a toute liberté de parler autour de nous de ce qui nous fait vivre, de notre espérance profonde. Mais on n'ose pas. C'est pas le cas des bergers. Il y a un épisode intéressant, c'est que il va y avoir toute une armée, une multitude de l'armée céleste qui se joint à l'ange. Alors, un ange, déjà, c'était bizarre, c'était surprenant, c'était inquiétant. Mais imaginez comme une espèce d'aurore boréale dans le ciel avec des personnages que vous pouvez voir, une multitude de l'armée céleste. Description n'est pas détaillée. On pense toujours qu'il chantait. C'est pas spécifiquement dit, on peut penser qu'ils utilisaient le chant. Mais ce qu'ils disent, c'est « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté » ou « les hommes qui l'agréent ». Les hommes qui sont prêts à croire à son existence et à son intervention dans leur vie. On rend gloire à Dieu parce qu'il est, encore une fois, pour revenir d'où il est parti, il faut faire un voyage vertigineux qui nous dépasse complètement. Il est en dehors du temps, il est en dehors de l'espace-temps. Mais il nous dit paix sur vous. Paix sur vous, il vous est né ce Sauveur qui est le Christ le Seigneur. On a tous besoin d'un Sauveur. On est tous, même les personnes les mieux équilibrées d'entre nous, qui que ce soit, qui que vous pensiez être, nous sommes tous gravement dysfonctionnels. Amen. Si quelqu'un n'est pas dysfonctionnel, qu'il vienne m'en parler après, je ne veux pas vous embarrasser. Et quelqu'un l'a très bien dit, en fait, il y a seulement deux groupes d'hommes. Il y a ceux qui savent qu'ils ont besoin d'un sauveur, et il y a ceux qui ne le savent pas. Mais on a tous besoin d'un sauveur. Il y a ceux qui savent qu'ils sont dysfonctionnels et ceux qui ne le savent pas encore. Et donc ce Sauveur, il est arrivé, il est venu. Et c'est ce que Luc veut que vous sachiez. Encore une fois, il a fait des entretiens. Il a pris les éléments pour diagnostiquer la réalité ou non de ce qui est dit. Et on voit l'effet de cette révélation auprès de ces hommes qui étaient méprisés. Ils vont le dire à tout le monde, à tous ceux. On peut imaginer même qu'au milieu de la nuit, ils sont allés réveiller leurs amis. Encore une fois, ils avaient la réputation d'être voleurs. Les gens devaient les entendre dire « Attention, il y a les bergers qui viennent voler ». Quelqu'un faisait remarquer que ça a dû être dur aussi pour les anges. Cette multitude céleste qui s'était préparée à donner ce grand spectacle. S'ils chantaient, ils répètent depuis des centaines d'années peut-être. Et puis il y a Gabriel ou l'ange qui ouvre le rideau. Et qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pas à la salle Nicaïa avec des milliers de personnes, il y a quelques bergers. Et là encore une fois, on a le contraste entre l'humilité de Dieu et l'orgueil de l'homme. Nous, si on avait eu la responsabilité d'organiser ça, on n'aurait pas bien dormi si on avait su qu'il n'allait pas avoir assez de monde. La semaine dernière, il y a eu un concert d'un groupe que vous connaissez peut-être, le groupe qui a produit ces cantiques, qui s'appelle Héritage, Sébastien Demeret et Jimmy Lahaye, des musiciens formidables. Et là aussi, la pub a été mal faite. Ils auraient dû remplir l'Acropolis. Ils ont chanté dans une église qui était à 75% remplie. Mais Dieu, ça le gêne pas. Il cherche pas l'approbation des hommes, il veut leur cœur. Il veut les toucher au plus profond d'eux-mêmes. Et ça, c'est le message de Noël, verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et puis on voit que, en fait, Marie, les gens qui écoutaient les bergers, ils n'en revenaient pas. Ils ont trouvé à l'endroit désigné par par les anges. Ils sont allés à Bethléem pour voir ce qui se passait. Ils ont bien vu ce qu'on leur avait dit était vrai. Et je crois que vous pouvez avoir la foi des bergers. Même si vous êtes complètement dysfonctionnel, Dieu vous dit ici qu'il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Est-ce que vous allez lui faire confiance ou pas? Est-ce que vous allez vous aussi mettre votre foi conformément à tout ce qui vous a été dit? On pense souvent, ah, si seulement je pouvais voir les choses, je croirais. Mais on sait par la suite dans la vie de Jésus qu'il a fait des miracles, qu'ils l'ont vu en action, qu'ils l'ont vu, mais leurs yeux n'ont pas conduit cette vision à venir dans leur cœur. Et la vraie question aujourd'hui qu'on doit se poser, c'est est-ce que vous avez été recensé? Est-ce que vous êtes compté parmi ceux qui avaient fait de la place au Sauveur dans votre cœur? C'est ouvert à n'importe qui. C'est ouvert aux musulmans, aux bouddhistes, aux athées, aux chrétiens dans le péché, aux chrétiens qui ont rejeté Dieu. Tous le Seigneur vous dit, je suis le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et la question c'est, qu'est-ce que vous faites de cette annonce? Est-ce que vous la recevez? Ou est-ce que vous dites, oh, ça c'est l'histoire de Noël, c'est joli, c'est une belle légende? Non, ça n'est pas une légende, c'est ce que Luc s'est efforcé de tout son cœur, de toute sa vie, de vous communiquer, c'est la réalité. Amen. Seigneur, merci pour ce récit, merci de le renouveler dans nos cœurs, Seigneur. Merci de nous rappeler ton humilité, ton amour, comparé à l'orgueil, au cœur fermé des hommes, Seigneur. Tu veux venir, tu veux nous sauver, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que peut-être ce matin, il y en a parmi nous qui n'ont jamais fait encore cette place réelle dans leur cœur à toi, Seigneur Jésus. Si c'est votre cas, pendant que nous sommes dans cette attitude de recueillement, de prière, vous pouvez prier dans le silence de votre cœur. Dieu, je sais que je suis un pécheur, que j'ai besoin de ton pardon. Je suis désolé pour mes péchés. Je te demande de me pardonner. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu parmi nous dans l'épisode que nous avons écouté, lu ensemble, et que tu es allé jusqu'à la croix mourir pour mes péchés. Que tu es ressuscité d'entre les morts, assis à la droite du Père, intercédant pour moi chaque jour. Seigneur, je veux t'ouvrir la porte de mon auberge, la porte de mon cœur, pour t'inviter à venir dans ma vie. Je réalise que je ne peux rien faire pour mériter mon salut. Tu es mon sauveur. Je mets ma foi complète en toi pour la vie éternelle. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci d'écouter ma prière et d'y répondre et de me donner le don de cette vie éternelle, la vie éternelle de Dieu. Amen.